Donc je vous remercie d'être venu pour écouter ce débat sur un thème que je trouve moi fort intéressant et que je vais vous dire dans un instant évidemment. Pour ce faire, nous avons, comme vous le constatez, cinq auteurs avec nous qui ne sont pas tout à fait les auteurs annoncés dans le programme puisque certaines personnes étaient souffrantes et n'ont pas pu venir. Donc nous avons malgré tout à ma gauche donc Pierre Bordage qui est le régional de l'étape, l'écrivain de science-fiction qu'on connaît bien depuis Les Guerriers du silence. Jean-Philippe Jaworski, qui est un de nos tout récents et jeunes auteurs, dont on a tout très très remarqué deux ouvrages, Janois Vera et Gagner la guerre aux moutons électriques. Édouard Brazé, qui vient nous rejoindre. Alors, Édouard Brazé, qui s'est rajouté, qui est venu parler de ce sujet avec nous, qui lui-même est d'abord est éditeur également, faut que j'y pense, et qui est écrivain. On lit actuellement son cycle des Nibelungen chez Belfond. Alden Kahn, l'auteur écossais de Vellum et Ancre. Et s'est rajouté également, pour venir nous tenir compagnie et dire ce qu'il pense de la chose, Roland Wagner, qui est aussi un de nos écrivains français de très longue date, dont on appréciera tout un tas de livres, à commencer par Les Futurs Mystères de Paris, dont un nouveau volume est sorti récemment, enfin, une réédition d'un ancien volume, que vous trouverez en dédicace tout à l'heure, je suppose, là-haut. Donc, eh ben, je vais poser la question, puisque c'est le sujet du débat, le 21e siècle spirituel ou pas ? Alors, qui sera la première victime ? Bon, il y en a un qui sifflote ostensiblement. C'est un débat taillé sur mesure pour Pierre Bordage, évidemment. Donc, monsieur Bordage, parlez-nous un peu de spiritualité.
Ouais, c'est...
Et puis, on essaiera de relier tout ça à la science-fiction aussi en cours du débat, de débat, si on peut.
J'en évidemment, suis pas certain. Dès qu'on parle de ça, on s'adresse à moi, je ne sais pas pourquoi. Mais bon,
c'est étonnant.
Voilà. Ouais, c'est étonnant. Alors, la question, c'est le 21e siècle sera-t-il spirituel ou non ? Et à cette question, je suis incapable de répondre parce que je ne sais pas ce que sera le 21e siècle. En tout cas, une chose est certaine, c'est que moi, oui, j'ai une démarche spirituelle. Alors, si on entend aussi spiritualité par religion, ce n'est pas du tout le cas. Parce que pour moi, la religion est un système de pensée comme les autres, qui emprisonne comme les autres. Et la spiritualité, pour moi, qui est la recherche de la liberté absolue, n'a absolument rien à voir avec les religions. Je convoque plutôt des gens comme certains mystiques soufis, qui disent que finalement le signe et le non-signe, le lieu et le non-lieu, certains mystiques chrétiens, parce que je pense que ce sont des aventuriers de la pensée, c'est-à-dire que se sont évadés des systèmes de pensée pour essayer de défricher des voies personnelles. Parce qu'évidemment, je pense que la spiritualité, c'est aussi une voie très individuelle. Mon propos, ma démarche à moi, c'est pour essayer de nouer avec ce qui m'entoure, c'est-à-dire les autres êtres humains, l'environnement matériel, l'univers, une relation différente de celle que perçoivent mes sens. Donc il s'agit vraiment d'une forme de transcendance par rapport à tout ce qui est autour de moi et une forme de communication qui soit basée sur une liberté absolue. Donc pour moi, c'est ça la spiritualité. Et je pense que si on continue à fonctionner dans des systèmes de pensée, c'est-à-dire à s'emprisonner dans des systèmes de pensée qui sont racines de souffrance, on n'a aucune chance de régler les problèmes humains. Parce que je pense que aussi l'humain, et ça c'est très personnel hein, bien sûr, hein, je ne suis pas un dogme, je pense que l'humain est d'essence spirituelle.
Quelqu'un veut prendre la parole ? La définition de la spiritualité, comment vous vous situez par rapport à ça ? Le premier qui veut. Roland n'a pas de micro. Il manque un micro, je répète.
C'était quoi la question ?
Ta définition de la spiritualité, comment tu te situes par rapport à ça ?
Je ne suis pas dualiste, c'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait une séparation entre d'un côté l'esprit, de l'autre la matière. Je ne crois pas à la notion de transcendance. Je pense que la conscience, l'esprit, c'est le résultat d'un processus physico-chimique qui se déroule dans le cerveau et que la spiritualité, qui est un fait indéniable de mon point de vue, est quelque chose qui est en rapport avec le fonctionnement de notre cerveau, notre cerveau étant un outil un peu imparfait, parce qu'il fonctionne vachement bien, mais on n'a pas le mode d'emploi. Et s'il y avait un créateur, il nous aurait filé le mode d'emploi. Donc moi, à mon avis, c'est le produit de l'évolution. Et que donc, ce qu'on peut appeler spiritualité, en fait, c'est quelque chose de, effectivement, comme l'a dit Pierre, c'est quelque chose de purement individuel. Ce sont des sensations, des émotions, des perceptions qui sont individuelles, qui relèvent uniquement du, je dirais, du témoignage personnel, parce que ce n'est pas des trucs qu'on peut partager. Les choses qu'on ressent à l'intérieur de soi-même, on a beau essayer d'utiliser tout un vocabulaire, on n'est jamais certain qu'on peut transmettre cette expérience. Et donc, justement, là, ce que font les religions, c'est qu'elles utilisent, ou les sectes, elles utilisent des choses qui sont présentes en chaque individu et elles amènent un système d'interprétation. Et moi, l'un des trucs les plus caricaturaux que j'ai vus là-dedans, c'était, alors je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, c'est une grosse hindoue qui doit avoir 60, 70 ans maintenant avec le bindi. Des fois, il y a des affiches sur Paris, elle fait des espèces de séminaires mystiques.
Ama ?
C'est possible. Et alors, moi, je n'y suis pas allé, mais je connais quelqu'un qui est allé à un de ces trucs. Alors, en gros, ils font une espèce de truc de concentration et il y a quelqu'un qui passe dans les rangs, qui passe la main au-dessus de la tête et on ressent une sensation de fraîcheur. Enfin bon, au-dessus de la tête, ce qui peut être explicable scientifiquement par plein de choses. Et là, hop, on donne l'explication tout de suite derrière, enfin une explication qui a été concoctée par la gouroute de la secte et qui donc vise à prendre une expérience personnelle, intime et non communicable et à donner une interprétation, cette interprétation étant à ce moment-là le moyen. On s'empare de la spiritualité, on la transforme en religion et en instrument. Et c'est pour ça que je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Pierre. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord effectivement sur la différence entre spiritualité et religion. Par contre, pour moi, la spiritualité n'est pas quelque chose qui nécessite une transcendance, qui nécessite du surnaturel ou qui nécessite l'existence éventuellement d'un dieu ou de créature divine et tout ça. La spiritualité, c'est humain et personnel.
Oui, Edouard ?
Alors, j'ai envie de prendre un peu la défense des religions, parce qu'il faut se souvenir que religion, ça vient du latin religere, qui veut dire relier. Et donc la religion...
Je suis en train de retenir Roland. Hein.
Au sens étymologique, la religion s'oppose à la secte, qui est justement une coupure. C'est-à-dire la secte est toujours en réaction par rapport à un dogme dominant, alors que la religion, justement, son principe, c'est de relier relier d'une part les fidèles d'une certaine croyance entre eux, mais surtout les relier à un plan supérieur qui est un plan mystique, qui est un plan divin. Divin ou spirituel, encore une fois. Puisque le fait de dire divin, déjà, circonscrit l'inconnaissable à une figure monothéiste, en l'occurrence, qui serait Dieu. Alors ce qui est intéressant dans la spiritualité, me semble-t-il, telle qu'elle peut être vécue au XXIe siècle par opposition aux religions précédentes, à la façon de vivre les religions jusqu'à présent, c'est justement cette idée de esprit. C'est-à-dire que l'homme est-il par nature un animal spirituel ou non ? Alors on sait tous que nous sommes des mammifères, que nous avons des instincts, que nous avons un cerveau reptilien, que nous avons un instinct de violence, que nous avons une attirance, une fascination pour le mal. Mais en même temps, je crois que nous avons, en tant qu'êtres humains, cette aspiration vers la transcendance. Et la transcendance, qu'est-ce que c'est la transcendance ? C'est simplement de toujours vouloir être au-delà de ce qu'on est, de vouloir dépasser ses limites physiques, géographiques, mentales, spirituelles, de toujours aller voir un peu plus loin si on n'y est pas. Pour moi, c'est ça la définition de l'être humain, et qui a toujours été, en quelque sorte. Alors aujourd'hui, la différence par rapport... La différence par rapport à la façon dont cette transcendance était vécue jusqu'à présent, c'est que les dogmes tels qu'ils ont été interprétés dans les religions volent en éclats. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus comme on croyait, au Moyen-Âge, avec la foi du charbonnier, la foi aveugle. Aujourd'hui, on essaie de comprendre. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, justement, dans le principe de la religion, ce n'est pas l'explication, ce n'est pas le dogme qui est intéressant, c'est le mystère. Pour moi, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de spiritualité sans mystère. Et le mystère, je peux le prendre aussi bien au sens médiéval, c'est-à-dire une représentation imagée, théâtrale et symbolique de choses que notre mental ne peut pas comprendre. Mais en revanche, nous pouvons comprendre une scène qui se déroule devant nous, comme nous pouvons comprendre les manifestations que l'on voit dans les statues de l'art roman, nous parlent sur un plan symbolique, mais non pas sur un plan mental. Donc, mystère sous ce plan-là, mais aussi mystère dans le sens de l'inconnaissable. Nous aspirons à devenir des êtres que nous ne sommes pas encore et auxquels nous tendons sans savoir vers quoi nous tendons. Et c'est ce fil, cette tension d'un fil qui nous relie à un mystère, à l'inconnaissable, qui pour moi forme l'essence même de la spiritualité.
Alden Kahn.
Juste un truc, moi je considère qu'il n'y a pas d'inconnaissable. Voilà. Moi, pour moi, il n'y a rien qui est inconnaissable. Il n'existe pas l'inconnaissable,
c'est un type de religion. But this takes into, I think you're assuming with this idea of transcendence, there's an assumption that we are trying to get above what we are. To me, this is a false dichotomy. This is between spirit and body, and I think you can look at it equally well as trying to get inside. You know, rather than look at it as the spirit is something which must transcend the body, something which must get out of the body, which is where I disagree with religion and disagree with this notion of spirituality. You know, I think very much the true spirituality is about engagement with the world, deeper and richer engagement with the world, relishing the world, and that, and to me, the spatial metaphor of height and depth is completely wrong. You know, rather than looking at it as if we become more spiritual, if we become more, we will transcend the flesh. I very much look at it as if we become more spiritual, then our flesh, we understand that our flesh is part of this world, that we are matter, and that's deeply, you know, that's my approach. Whether that will become more so in the 21st century or not, I have no idea.
Juste une précision pour répondre, c'est que moi je n'oppose pas l'esprit à la matière ou au corps, évidemment. C'est-à-dire que ce que je disais, c'est que la transcendance consiste à évoluer vers quelque chose d'inconnu, mais vers quoi nous tendons, donc nous estimons que cette chose existe sans la connaître. Mais bien évidemment, l'esprit, de mon point de vue, et du point de vue, je pense, aussi des religions, l'esprit ne doit certainement pas être opposé à la matière, pas plus qu'il ne doit être opposé à la chair ou au sexe. Le sexe, par exemple, ou la chair, ou le sang, et même la violence, sont partie intégrante de l'être humain et doivent justement, de mon point de vue, faire partie de cet état que nous avons, mais qui sans cesse mute.
Ouais.
La mutation fait partie pour moi de la transcendance. Le fait de devenir des mutants, l'être humain tel qu'il existe aujourd'hui, il est quand même assez différent disons, des Cro-Magnons, des Néandertals, même s'il y a les mêmes pulsions au départ, mais nous avons beaucoup évolué et nous allons muter encore. Peut-être que dans un siècle ou dans deux siècles, l'être humain fera 3 mètres de haut, peut-être qu'il n'y aura plus d'oreilles ou de paroles parce que justement il aura une relation télépathique avec les autres. Qui le sait ? Mais ça, c'est bien une mutation. Cette mutation, elle consiste vers quelque chose de neuf, quelque chose d'autre. Et c'est justement pour moi, cette transcendance, elle est justement liée à cette mutation, qu'elle soit mentale, spirituelle ou physique.
Je voudrais juste rappeler un truc quand même, c'est que l'homme moderne, il est apparu il y a à peu près entre 70 et 100 000 ans en Afrique et qu'il n'a pas bougé depuis. Hein. L'homme, il n'a pas changé hein, en 100 000 ans. On est identique à nos ancêtres d'il y a 100 000 ans. Donc la mutation, je la sens pas quand même là. La culture, si tu ne parles que de culture, effectivement, l'homme étant un animal culturel par essence, et que quand même c'est vraiment la grande caractéristique qu'on a. Oui, il y a eu une mutation culturelle. C'est un peu comme si l'évolution et les mutations culturelles ont remplacé dans la société humaine ce qui, dans les sociétés animales, se traduit par des mutations physiques et par la spéciation et tout ça. Mais nous, au lieu d'avoir des spéciations, on a des spéciations culturelles. Par exemple, ici, il y a on peut donner deux exemples de spéciation culturelle. Il y a des gens qui font de la fantaisie et des gens qui font de la science-fiction. Et certains sont des bâtards entre les deux. Ben là, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire de mutation, si tu la places sur le plan physique, je dis non. Si tu la places sur le plan mental, on peut en discuter.
Peut-être Jean-Philippe ?
Oui, à propos de la question initiale, le 21e siècle, spirituel ou pas, bon, je suis loin d'être devin, hein. Mais mon opinion, ce n'est qu'une opinion, c'est qu'il sera spirituel. Il sera spirituel pour une raison simple, à laquelle j'adhère pas forcément moi, personnellement. C'est qu'on est dans un monde qui est en pleine mutation, très inégalitaire, très violent, où les individus sont facilement en perte de repères. Dans nos sociétés occidentales, par exemple dans le monde du travail, on isole énormément les individus, c'est le fondement de l'organisation du travail. Et par conséquent, il y a un sentiment qui est très très fréquent, c'est le sentiment de déréliction. L'impression d'être abandonné, de pas la perte de sens. Et là, la réponse spirituelle ou religieuse, elle semble s'imposer avec beaucoup de force parce que c'est très rassurant. C'est très rassurant de découvrir une transcendance, c'est très rassurant d'avoir une réponse religieuse. Alors, donc moi je vois ça comme la possibilité d'une présence très forte de la spiritualité pour rassurer des individus qui sont de plus en plus séparés les uns des autres. Personnellement, j'y adhère pas forcément. J'ai peur qu'on y trouve beaucoup de fausses réponses, un petit peu comme dans l'Empire romain finissant, il y avait une poussière de cultes, de religions, de sectes qui rassuraient dans un monde dont on sentait qu'il était en train de vaciller et qui en fait était en pleine évolution, qui ne courait pas forcément la destruction. Dans les exemples de transcendance, alors là je vous entendais débattre sur l'évolution de l'homme, un exemple de transcendance en fait ce serait la post-humanité, hein. Mais ce mythe de la post-humanité, même si nous on y pense en termes d'évolution, de mutation ou en termes d'homme augmenté, finalement c'est quelque chose qui est très ancien. Ce mythe de l'homme augmenté, de l'homme divinisé, on le trouve dès les sociétés antiques, hein, on trouve ce rêve de l'apothéose, hein, aussi bien chez les empereurs romains que dans la divinisation des héros, hein, et finalement on a toujours j'allais presque dire les mêmes réponses à des angoisses très anciennes.
But the thing with the transhuman, what is taken for granted is that we're the human mind, the human intellect is in and of itself this spiritual the peak of this process of development of mutation. It's the old idea of evolution as a tree and with humanity at the top, and the reality is no. You know, humanity is just one branch. You know, yes, we have a brain, which is an organ, which is a very complex organ and does very interesting things, but an elephant has a trunk, which is a complex organ, which does really complicated things. And, you know, I question if the, like, transhumanism, you know, the idea of the mind becoming free of the body is really any more than the trunk of an elephant without the elephant. Is there any point in that? Are we aspiring to something in that respect that there is no point aspiring to? The trunk and the elephant go together.
Mais je suis assez fasciné par voir, de constater à quel point on recrée sans cesse des systèmes de pensée. On a parlé de l'évolution, tout ça, j'en sais rien. C'est un système de pensée. Je ne sais pas, j'étais pas au moment de l'évolution, je n'y étais pas. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. On parle après de toute la religion, c'est un système de pensée. Et je pense que la véritable spiritualité, c'est une aventure. Ça veut dire se débarrasser des conditionnements, de tous les conditionnements qu'on a, sociaux, historiques, culturels, théoriques, religieux, et essayer de percevoir le monde par soi-même, ce que nous ne faisons jamais, puisque chaque fois que nous percevons le monde, nous le percevons par rapport à un conditionnement. C'est beau, ça nous attire, ça nous repousse, on a envie d'y aller parce que ça remue quelque chose de profond en nous qui est de l'ordre du conditionnement. Donc je pense que la véritable spiritualité, c'est le déconditionnement total. C'est-à-dire sortir de tous les systèmes de pensée
et ça rejoint peut-être la transcendance dont parlait Edouard, et de percevoir le monde de façon différente. Mais on peut le percevoir de façon différente que si on pense différemment, ou que si on, ne, on cesse de subir nos conditionnements qu'on semble accepter volontiers. Et c'est pour ça que quand les religions se sont créées, un prophète, c'est quelqu'un qui libère en théorie. Il a une parole libératrice en disant peut-être il y a une autre façon de regarder le monde. Et évidemment, les gens qui arrivent derrière, qui ne partagent pas l'expérience, comme disait Roland, et, vont remplacer la perception directe par le dogme, puisque c'est le maître à penser comme ça, donc ça doit être comme ça qu'on pense. Or, c'est archi faux. C'est un système de conditionnement de pensée. Il faut que, quand un prophète arrive, il nous invite simplement à nous explorer nous-mêmes et à trouver cette liberté intérieure hors de tout conditionnement. Et c'est cette espèce de mécanisme qui revient depuis la nuit des temps qui fait que on essaie de se libérer de quelque chose et tout de suite il y a le mécanisme qui est là, qui vous reprend, qui vous remet exactement dans la même prison mentale que vous y, que, dans laquelle vous étiez, et qui vous permet de ne jamais accéder à la véritable liberté intérieure qui permet de voir le monde de façon différente.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la philosophie soufie. Et effectivement, les soufis avaient l'habitude de poser poser des énigmes, en fait. Donc, des sortes d'histoires, pratiquement des blagues, qui ne pouvaient pas être comprises.
Comme Nasreddin ou...
Voilà, comme l'histoire de Nasreddin. Donc, en fait, le maître soufi donnait des énigmes à résoudre à ses disciples qui ne pouvaient pas les résoudre par le mental, par le simple mental. Et il y avait toujours un moment où, en fait, par la tension d'énigmes qui étaient complètement antinomiques, il y avait une espèce de libération qui se faisait dans le mental, les verrous du mental craquaient et le disciple pouvait avoir ce qu'on appelait une illumination, ce qui fait que tout d'un coup, il entrevoyait quelque chose de complètement différent qui n'était plus explicable mentalement, mais qui était effectivement du domaine de la révélation spirituelle. Alors évidemment, le problème, c'est que cette révélation spirituelle, telle que les exemples qu'on peut en avoir par les récits soufis ou par les récits des grands illuminés de différentes religions, oui, hein. C'est que ça se confond un peu avec une forme de folie. C'est que tout d'un coup, la personne qui reçoit comme cette illumination, elle n'est plus avec nous, elle n'est plus dans le débat d'idées, elle n'est plus dans le système de pensée, elle est ailleurs. Donc ça devient le fou sage, ça devient l'errant, comme ça, qui va son chemin et qui peut même faire des miracles, parce que justement, comme il est au-delà des formes, eh bien, il devient le maître des formes. Mais on ne le comprend plus. C'est-à-dire que celui qui justement comprend en fait ce qu'est peut-être réellement l'humanité dans son devenir spirituel n'est plus en relation avec l'humanité telle qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire très mentale, très matérielle. On est carrément autre part, comme dans une autre dimension. Une autre dimension qui est parallèle à la nôtre, que parfois on en a l'intuition. Je veux dire, nous, quand on écrit, parfois on sent, entre guillemets, inspiré, mais on ne sait pas d'où ça vient réellement. En revanche, on sait qu'on n'est pas l'auteur de ces idées. Parfois, des idées qui viennent d'ailleurs, on est allé les comme ça, on les a saisies d'une espèce d'acacha céleste, tout d'un coup. Voilà, comme, moi, je vois un peu les idées comme des oiseaux qui volent, puis d'un coup, ils se penchent. Il se pose parfois sur l'épaule d'un auteur, et puis l'auteur, il prend ou il ne prend pas l'histoire, il ne prend pas l'idée. S'il la prend, ben voilà, elle vient sous sa plume, il se prétend l'auteur de cette idée. Mais en réalité, non, l'idée, elle est libre, elle part, elle repart, et puis si tard trop, elle la prend, elle va avoir un autre auteur. C'est pour ça qu'il y a des idées en l'air, comme on dit. C'est parce que les idées sont toujours au-delà, elles sont toujours dans cette espèce d'ailleurs dans lequel on va les chercher.
Je sens que Jean-Philippe Jaworski a quelque chose à dire. Roland Piève d'impatience aussi, mais juste après.
Ce dont tu parles, Edouard, c'est vraiment de l'idéalisme philosophique. C'est le monde des idées qui nous domine. Alors, bon, moi, je suis prof de lettres aussi. Alors, je dis des horreurs à mes élèves. Je dis vraiment des horreurs. Quand je leur donne un sujet, qu'ils me disent qu'ils ont du mal, en général, le premier truc qu'ils me disent, c'est « ça ne m'inspire pas ». Et moi, je leur réponds « moi, je ne crois pas à l'inspiration ». Et puis, je leur explique, je leur demande « vous croyez au Père Noël ?» Regarde, alors bon, c'est des ados, hein. Sinon, on ne croit pas au Père Noël. Je leur dis, croire à l'inspiration, c'est comme croire au Père Noël, hein. C'est croire justement qu'il y a une muse qui vient vous visiter et qui vient vous souffler quelque chose. Moi, je leur dis, la seule façon d'accoucher de quelque chose, c'est le travail. Travail sur soi, ça peut être le travail sur l'inconscient. Et pour moi, ces idées qui viennent, qui repartent, etc., il y a une relation avec l'inconscient. Alors sur cette relation entre, j'ai envie de rebondir sur cette relation entre les idées qui viennent nourrir l'auteur et puis ces révélations supérieures, il y a, il y a un psychanalyste. Alors oui, je tombe très bas. Il y a un psychanalyste qui était aussi un pédiatre, Donald Winnicott, mais je vais aussi vous décevoir, il n'y aura pas de sexe. Donald Winnicott travaillait beaucoup sur les enfants et il dit qu'en fait, dans le mental des enfants, mais aussi de vous et moi, il n'y a pas seulement deux réalités, parce que la psychanalyse traditionnelle dit qu'il y a deux réalités. La psychanalyse traditionnelle dit qu'il y a la réalité intérieure, celle de notre mental, qui fait qu'on a tous un point de vue individuel et différent, puis une réalité extérieure, qui est la réalité qui fait qu'on est tous ensemble dans la salle. Winnicott dit qu'il y a une troisième réalité, qui est un espace transitionnel. Et cet espace transitionnel, c'est ce qui sert à faire l'interface, en fait, entre notre perception du monde et puis le monde réel. Et cet espace transitionnel, il se développe chez l'enfant, à petite enfance, avec un objet traditionnel qui en général est le doudou, qui sert de substitut à la mère, et puis qui permet petit à petit ensuite de symboliser un certain nombre de choses et d'arriver à l'activité du jeu. Et Winnicott dit, quelqu'un qui va conserver longtemps l'habitude de visiter cet espace transitionnel personnel, c'est quelqu'un qui va être un joueur et ou un artiste et ou un religieux. Il dit que l'exploration de cet espace transitionnel, le fait de le conserver jusqu'à l'âge adulte, nous offre accès à ces trois espaces, un espace ludique, un espace romanesque, un espace religieux. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a complètement éclairé parce que très souvent, il y a un conflit en particulier entre le monde des arts et le monde religieux. Le monde des arts a souvent été récupéré par le monde religieux pour servir des représentations, mais il y a eu aussi condamnation, par exemple, du roman pendant très longtemps pour des motifs religieux. Et parce que là, il y avait un terrain, qui est un terrain psychique, où il se rejoignent la spiritualité, la créativité et le jeu. Et donc moi, j'apporte une explication qui est une explication archimatérialiste.
Non, mais excuse-moi, Jean-Philippe, mais c'est un système de pensée. On adhère ou on n'adhère pas, on n'est pas obligé d'adhérer à ce système-là.
Quoi, et puis un dernier point sur les systèmes de pensée. Quand vous parlez de... j'ai l'impression que tu parles de contemplation, en fait, quand tu parles d'une aventure où on découvre le monde par soi-même.
C'est plutôt l'apprentissage... Enfin, pour moi, la spiritualité, c'est l'apprentissage de la perte. Et je pense que notre vision humaine, c'est l'apprentissage du surplus. L'humanité, c'est le surplus en permanence, c'est-à-dire c'est vouloir plus et plus et plus et dire il y aura un monde meilleur, un thème du festival, si on fait ça, 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 ça et ça. Ce qui fait qu'on crée toujours un abîme entre l'intention et l'action et on sombre régulièrement dans cet abîme entre intention et action. Donc c'est juste m'arrêter de dire moi je veux moins, enfin je veux perdre finalement et donc me libérer de tous ces fardeaux finalement qui m'empêchent d'accéder à une autre vision du monde. Alors je ne sais pas si c'est ça de la contemplation, mais c'est plutôt... une anti-démarche, enfin l'anti-quête initiatique en quelque sorte, c'est-à-dire je me débarrasse de toutes les idées. En gros, hein, et je vais être très grossier, dit j'emmerde Winnicott, comme j'emmerde les religieux, comme j'emmerde tous les autres, tous ceux qui cherchent à m'imposer un système de pensée parce que c'est pas le mien. Je peux adhérer ou non, mais je peux adhérer à un parti fasciste aussi, tu vois.
Le public, ça va ou...
Le public, j'aime beaucoup. Non, mais on peut adhérer à un système de pensée complètement aberrant, simplement, parce qu'il nous arrange à un moment, mais ce n'est qu'un système de pensée. Donc, je veux dire, pour moi, c'est ça l'essence même de la spiritualité. Enfin, ce n'est pas un dogme non plus.
une petite question. Est-ce que dans les exercices spirituels, parce que les exercices spirituels, il y en a qui ont été écrits par des mystiques, est-ce que ça, déjà, ce n'est pas en soi un système?
Bien sûr que si, bien sûr que si. Puisque le mystique, il ne peut pas transmettre son expérience, puisqu'elle est de l'ordre de l'individualité. Ce qu'il, lui, ressent, le chemin de chacun est complètement différent. Donc, on ne peut pas. C'est simplement essayer de prendre conscience que la différenciation qu'on fait entre le réel et l'idéal, je pense que c'est le grand piège dans lequel tombe l'humanité depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, c'est se débarrasser de toute idée d'idéal pour dire... Je suis là maintenant, ici et maintenant, et comme disent les mystiques soufis, non, le lieu est le non-lieu. Le lieu est le non-lieu. Et à partir de ce moment-là, on commence à avoir une vision, je pense, différente du monde.
I think the Sufi mystics are, it's clearly similar to the Zen koan, in Buddhism, which is trying to say the same thing. It's trying to communicate the inability to communicate that state, and the fact that the structures of thought, the structures of language, which we project onto the world, there are these artifices which do not reflect the reality. You know, I can understand where Pierre is coming from here with the idea that spirituality is about breaking those down. And the point of those Sufi mystics, the point of a Zen koan, seems to be to confront the listener with a paradox, which there's no way beyond, to make them understand that reality is in itself contradictory. You know, reality is created out of these tensions, and the words, the labels we give to these tensions, you know, where we try and make order, try and box the world up in these nice, simple, straightforward patterns, these systems, and they don't work. You know, Gödel says, you know, any, you know, formal system cannot be both consistent and complete. The poet, modernist poet Wallace Stevens, said, which is kind of probably my favorite phrase or a couple of lines from any poem ever, is, throw away the lights, the definitions, and say of what you see in the dark that it is this or that it is that, but do not use the rotted names. And what he's trying to communicate, I think, is this idea that the rotted names, the words, the systems that we use, you know, they have to be disposed of. They have to be broken down and gotten past in order to just experience the world. And I think, you know, that a lot of the mysticism is a kind of recurrent theme in mysticism is this idea of direct experience, of experience that's not mediated through these systems of thought. If that makes sense.
Roland.
Ça a eu une bonne bière, c'est parfait.
Roland Wagner veut prendre la parole.
Justement, Al parlait de Koan Zen, je ne me rappelle plus si c'est un truc Zen, mais il y a un truc très simple. Ne pense pas une carotte. Qui montre bien, moi pour moi c'est un truc qui montre bien comment fonctionne une partie de l'esprit et tout ça justement. L'autre truc, j'ai pas compris tout ce qu'il a dit, mais l'autre truc qui me... C'est au niveau du langage justement, la spiritualité et le langage. En fait, moi j'aurais tendance à estimer que la spiritualité, ce que moi j'appelle la spiritualité, et qui correspond à peu près à ce que tu as décrit, il y a un peu de choses près, quoi, se situe au-delà ou en deçà du langage. Je ne peux pas décider entre au-delà ou en deçà. Hein. Mais c'est clair que, ayant moi-même eu certaines expériences spirituelles très intenses, je peux dire que quand on arrive au stade où le langage, on ne pense plus du tout en... À la limite, on peut même parfois ne plus penser. Mais on ne pense plus en mots. On est au-delà ou en deçà du langage. On est, le langage est mis de côté. Et à ce moment-là, l'esprit lui-même fonctionne sans le filtre du langage, qui est quand même le premier conditionnement. Je crois que ça a été dit, ça. Et ça, c'est quelque chose, donc, comme on l'a dit, qui n'est pas partageable, mais qui, à mon sens, est super intéressant au point de vue du ressenti, c'est-à-dire arriver à connaître une épiphanie, ce qu'on appelle une expérience mystique ou un satori, enfin, ça prend plein de noms. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, aussi bien des gens qui sont mystiques qu'à des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est un phénomène, à mon sens, certainement biologique. Notre cerveau peut créer ce phénomène. Après, on a le droit de projeter des trucs en disant que si on nous a mis ça dans le cerveau, c'est parce que... On peut aussi dire que c'est simplement une conséquence de l'évolution. Mais en tout cas, moi, ce qui me paraît évident, c'est que c'est un moyen, peut-être, de revenir à l'état antérieur au langage, que ça soit dans notre vie personnelle ou dans l'échelle de l'évolution, soit d'accéder à un état qui est au-delà du langage, où les pensées sont sous leur forme pure, qui n'est même plus symbolique. Bon, j'ai conscience que c'est ce que je veux dire est un peu confus. Et ce que j'essaie vraiment de dire, c'est que la spiritualité, je pense, commence vraiment quand on laisse le langage de côté et quand on s'en arrive à en débarrasser. C'est pour ça que le coup « ne pense pas à une carotte » est intéressant, parce que si on te dit « ne pense pas à une carotte » et que justement tu ne penseras pas, là, c'est que ça veut dire que tu es au-delà du langage. Voilà.
C'est vrai qu'on est un peu dans les paradoxes avec cette notion de spiritualité, parce que, bon, spiritualité, ça vient de l'esprit, spiritus. Si on prend une tradition parmi d'autres, mais la tradition chrétienne avec l'évangile de Saint Jean, on a au début, le verbe s'est fait chair. Donc en fait, l'esprit, en tout cas dans une certaine tradition chrétienne, c'est le verbe. Du verbe au langage, il n'y a qu'un pas. Donc le langage devrait être le média privilégié de la spiritualité. Or, le fait même que ici, alors que nous sommes d'une culture commune, puisque nous intéressons à la fantaisie et la science-fiction, eh bien, les mots tels que nous les utilisons n'ont certainement pas le même sens. C'est pour ça que nous sommes amenés à redéfinir les mots que nous utilisons. Et vous-même qui nous écoutez, peut-être que vous avez une autre interprétation de ces mots, et surtout des mots valises, comme on disait il y a quelques années, comme spiritualité. C'est sûr que ce sont des mots comme amour ou comme, tous ces mots-là, ces mots valises, on y met ce qu'on veut, quoi. C'est un peu l'auberge espagnole. Alors, on est obligé, pour parler de quelque chose qui devrait être évident, puisque l'esprit devrait justement nous réunir autour de choses communes, eh bien, il nous divise parce que nous devons redéfinir. Ben oui, mais là, j'entends par-ci, j'entends par-là. C'est au-delà du langage, c'est en deçà, c'est dans le langage, c'est le langage même, c'est ce qui n'est pas le langage. Et en fait, on tourne un peu en rond, mais on est obligé. Je veux dire, c'est pas... On mettrait des médecins, des philosophes, des académiciens à notre place, ils tourneraient en rond comme nous, un peu comme des rats en cage. Parce que par définition, nous sommes des rats, nous sommes dans une cage, et nous parlons de choses qui sont au-delà de la cage. Et nous savons qu'il y a quelque chose au-delà de la cage, mais en même temps, comme nous connaissons que la cage, c'est un peu difficile. Alors nous avons comme...
Le langage lui-même est une cage.
Hein. Et c'est une cage aussi, mais en même temps... Oui,
mais
une
j'ai
cage.
Une lime moi, pour la cage.
Mais si nous n'avons pas de langage, Pierre... Comment pourrions-nous même élaborer l'idée que le langage est une prison?
Complètement.
Nous ne pourrions pas.
Le langage est à la fois un outil merveilleux
tout à fait.
Et quelque chose qui est très
restrictif. Et les systèmes de pensée que tu dénonces, eh bien, nous avons besoin de ces systèmes de pensée pour avoir même l'idée même de les dénoncer. Et plus nous approfondissons certains systèmes de pensée, plus nous avons la liberté justement de les remettre en question pour en créer d'autres, certes, qui seront tout aussi limités à un certain point de vue. Mais donc, c'est ça qui est rigolo. Alors, après, on peut revenir à la notion, je pense, de la fameuse caverne de Platon, quoi. C'est-à-dire que nous sommes dans la cage, nous avons un reflet d'une autre réalité qui serait la vraie réalité. Nous la voyons inversée, nous en voyons un reflet, donc nous ne comprenons pas bien ce que nous voyons. Nous sommes devant un espèce de cinéma.
C'est la définition de la Maya hindoue.
Bien sûr, c'est la Maya hindoue, un peu comme dans le film de Woody Allen, où la réalité, c'est en fait au-delà de la toile, quoi. Donc il faut crever la toile pour crever le voile de la Maya, l'arcane numéro 2 du tarot, la papesse, pour arriver. Alors qui sait, parce que peut-être que cette autre réalité spirituelle n'est jamais qu'un autre, alors peut-être un piège, peut-être une illusion, ou peut-être une antichambre d'une autre remise en question de cette autre réalité pour basculer encore ailleurs. Alors c'est là où on se retrouve dans une approche qui est totalement imaginaire au sens premier, c'est-à-dire on projette des images. Et en fait, je crois que nous projetons des idées, mais nous projetons surtout des images à travers les mots que nous utilisons. Plouf.
On va peut-être voir s'il y a des questions dans le public aussi, parce qu'il est...
Juste après ce que disait Roland par rapport à tout vient du cerveau, alors moi je suis pas persuadé de ça, quoi. Je me demande si le cerveau est vraiment l'organe producteur de tout, ou bien si c'est qu'une interface. Donc qui rejoignait plutôt l'idée d'Edouard, où il y avait une sorte de métasphère ou quelque chose, et dont le cerveau était juste un capteur qui après transférait dans l'incarnation. Ça, c'est une question à laquelle il n'y a probablement pas de réponse. Mais,
clairement, ce que tu es en train de décrire, c'est les futurs mystères de Paris et la psychosphère. Non, mais sérieusement,
comment il ramène tout à ces bouquins, hein, incroyable.
Attends, il ne faut pas me tendre la perche non plus.
Ouais.
Pour moi, c'est une hypothèse de travail, science-fictive.
Ouais, je l'ai fait aussi dans Porteur d'âme. Donc, à partir du moment où on peut transférer l'âme de quelqu'un dans le corps de quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on a une partie de soi, une conscience qui est en dehors du cerveau.
Donc qui...
Oui, mais parce que toi, tu as l'air de considérer qu'un truc comme l'âme, ça existe. Moi, pour moi, ça n'existe pas.
Oui, pour moi, oui. Je pense qu'il y a une âme.
Moi, il y a l'âme.
Chacun. Ouais.
Et tu sais quoi,
l'âme, c'est le truc au-dessus du cerveau, justement.
Tu sais quel est le truc le plus réconfortant, le plus sécurisant et le plus confortable, la pensée la plus cool que je connais, c'est de me dire que putain, qu'au moment où je vais m'éteindre, il n'y aura personne, il n'y aura pas de petits diablotins qui vont venir me piquer le cul avec des fourches, il n'y aura pas un vieux monsieur à barbe blanche ou un type qui va m'accueillir avec 72 vierges. Non, non, ça sera fini, il n'y aura plus rien. Et moi, je trouve ça super rassurant et super reposant, tu vois, justement. De me dire que à ce moment-là, ça s'arrête, voilà.
Mais moi, c'est quand même déjà un système de pensée. C'est une certitude.
C'est un système de pensée, mais
tu n'as aucune prise.
Alors attends. Il y a quand même un truc, c'est que la vie s'arrête. On n'a aucune preuve qu'il y a quelque chose. Tu vas me dire, on n'a pas de preuve qu'il n'y a rien.
Mais on ne sait rien.
Oui, mais à partir du moment où on ne sait rien,
et ben voilà.
C'est comme pour l'horizon événementiel du trou noir, en fait, où il y a une pression infinie, une température infinie. On ne peut pas visualiser ces trucs-là. Mais parlez des voiles de Maya tout à l'heure. Mais dans Il est parmi nous, Norman Spinrad, qui a quand même écrit un bouquin, justement, sur la spiritualité, le XXe siècle, et le XXIe siècle et tout ça, il joue d'une manière très très subtile entre, d'une part, un personnage qui est une chercheuse spirituelle New Age, qui a des satori régulièrement, qui pratique tout un tas de trucs, et un auteur de science-fiction qui, lui, est un matérialiste pur et dur, etc. Et l'une des clés du bouquin, finalement, c'est que la vision mystique et la vision matérialiste se rejoignent par le biais... Bon, après, on est dans un roman de science-fiction, donc il y a de la physique quantique, il y a tout un tas de trucs, puis c'est du Spinrad, donc c'est très compliqué. Mais le truc, c'est qu'il y a les voiles de Maya, et puis derrière les voiles de Maya, il n'y a que le vide.
Oui, comme nous d'ailleurs, comme nous, voilà. On est constitués de vide.
Oui, non, mais le vide qui... T'as entendu parler de l'énergie du vide. Ben, c'est ce vide-là, si tu veux. C'est-à-dire que la réalité, c'est... Le centre est vide. La réalité, c'est... Enfin, ce qu'on voit, si on écarte les voiles, finalement, ben, derrière, il n'y a plus rien, non plus. C'est le vide. Ce qui est réel. Et si tu veux, moi, ma philosophie personnelle, c'est quand même un peu de me dire que seul ce dont je peux faire l'expérience est réel, que ce dont je ne fais pas l'expérience personnelle peut être réel, mais dans ce moment-là, ça exige des vérifications, par exemple, d'avoir connu des gens qui...
Donc tu ne peux pas donner foi à des systèmes de pensée comme le darwinisme, tout ça, parce que ce n'est pas réel. Toi, c'est parce que on n'expérimente pas ces systèmes de pensée. On nous a dit que c'était comme ça. Mais on est incapable d'expérimenter.
Tu as donné quoi comme exemple ?
Darwinisme, ça peut être la relativité, enfin tout ce que tu veux. Tous les systèmes.
Mais là, on est dans des systèmes de pensée qui partent de l'observation. Moi, j'ai quand même tendance à faire une différence fondamentale entre ce qui part de l'observation et ce qui part d'une certaine qualité de notre état intérieur fluctuant. C'est pas du tout pareil que de regarder les fossiles et puis de dire, ouais, mais tu vois, datation carbone 14 ou l'évolution, de voir avec les différentes espèces d'oiseaux. C'est totalement différent que de se pencher sur un truc qui s'est passé dans notre tête. Tu sais que d'autres gens ont vécu une expérience analogue. Analogue. Pas identique. Tu peux pas savoir si elle est identique, vu que l'expérience est incommunicable. Et parce que justement, c'est pour ça que je disais au-delà, c'est non verbal, c'est une expérience non verbale. Donc comment veux-tu retranscrire une expérience non verbale avec des mots ? Dire, c'est qu'il y a quand même plein de gens qui ont essayé de le faire, et il y a quand même personne qui a jamais réussi à le faire réellement, parce que c'est pas possible. Mais je trouve ça très intéressant d'essayer.
D'ailleurs, assez savoureux pour des auteurs de dire que le verbal est très difficile, parce que c'est vraiment ce à quoi on est confronté tous les jours. C'est comment transmettre une idée par le mot, et ça, c'est vraiment le métier. Quoi.
Et au niveau du langage, moi, j'ai remarqué un truc. Une chose qui est très... Je ne sais pas comment ça se passe chez les autres gens, mais moi, il y a...
Roland, il faudrait parler mieux dans le micro.
Ouais, certains types de textes, je les lis, et pour moi, ils n'ont pas de sens. Beaucoup de textes religieux ou des trucs comme ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Ils emploient des mots, c'est des mots qui se succèdent, ça ne veut rien dire. Parce que ce sont des mots qui ont été plaqués justement sur des choses intérieures et qui désignent des expériences. Et que s'il n'y a pas, un, le bagage symbolique, deux, le bagage culturel précis, on ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça. Mais si on acquiert ce bagage culturel précis, on rentre dans le système. Et donc, c'est un peu comme dans Babel 17, où quand on apprend la langue de l'ennemi, on passe automatiquement du côté de l'ennemi.
Ce que tu dis sur le fait que tu refuses en quelque sorte ce qui n'est pas l'objet de ton expérience sensible des choses. Ça rejoint très étrangement la pensée des mystiques des premiers siècles de l'Église qui défendaient l'idée de ce qu'on appelait la foi apophatique, c'est-à-dire la foi négative. La foi négative, ça consiste à dire, par exemple, pour parler de Dieu, les mystiques chrétiens disaient « Dieu n'est pas ». Ils ne disaient jamais « Dieu est ». C'était ridicule pour eux, parce que Dieu étant par définition au-delà de l'être humain, l'être humain ne peut pas avoir conscience de ce qu'est Dieu. Il l'ignore, il l'ignorera toujours. En revanche, il peut dire ce que Dieu n'est pas, c'est-à-dire il peut définir Dieu à l'envers, négativement donc, parce qu'il n'est pas. Par exemple, Dieu n'est pas l'imitation. Voilà, Dieu n'est pas la limitation des termes qu'on peut utiliser pour le désigner. Dieu n'est pas haine, par exemple. Bon, on ne peut pas dire Dieu est amour, parce qu'on ne sait pas quel amour est l'amour divin par rapport à notre définition de l'amour. Donc, on se perd dans les mots. Donc, cette notion de foi apophatique est assez méconnue et qui n'a pas été utilisée plus tard par l'Église catholique romaine, est très intéressante parce qu'elle rejoint très étrangement une vision qui peut être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus, voire matérialiste, en disant « je ne crois que ce que je vois, mais effectivement, ce que je vois est-il réel pour autant ? Est-ce que nous ne projetons pas, comme on le sait, en fait, ce qu'on voit, la réalité sensible, ce n'est jamais que notre cerveau qui réinterprète des espèces d'atomes qui partent dans tous les sens ? La télévision, si nous voyons vraiment ce qui se passe dans l'écran de télévision, nous ne verrions pas des images, c'est notre esprit qui les reconstitue, nous verrions des espèces de neige comme ça, des électrons qui se baladent dans tous les sens. Donc en fait, le réel, c'est ça, ce sont les électrons qui se baladent dans tous les sens, qui n'ont aucun sens compréhensible par nous. Donc en fait, tout ce que nous appelons la réalité, ou bien le langage, ou bien la relation que nous entretenons ensemble, n'est que le fruit d'une réinterprétation de notre cerveau. Donc en quelque sorte, nous sommes programmés. Alors, même si les systèmes de pensée nous programment, d'une certaine façon, nous sommes nous-mêmes programmés. Par qui ? Nous ne savons pas. Est-ce qu'il faut nous déprogrammer pour nous reprogrammer autrement ? Peut-être. Mais c'est ça le mystère, c'est que nous pouvons définir négativement ce qui nous constitue, en quelque sorte. C'est le grand paradoxe. Et ce qui fait que, de mon point de vue, les athées, ou ceux qui prétendent être athées, je ne parle pas des agnostiques, mais les athées sont généralement des gens extrêmement croyants. Mais justement, comme ils se révoltent contre une foi, je dirais la foi bigote, la foi qui se satisfait de vérité première, etc., comme ils se révoltent contre cette notion-là, et ils ont raison de le faire, ils défendent en fait une idée de foi négative qui consiste à nier l'existence même de Dieu. Et en niant l'existence même de Dieu, ils se réapproprient et en fait, ils font preuve de foi. Pour moi, les athées sont attués à toi avec Dieu.
Oui, je ne suis pas d'accord. Juste un mot. Moi, je ne suis pas d'accord. Bon, certes, il y a des athées qui sont athées par réaction contre la religion, mais il y a aussi un athéisme qui est fondé, en fait, sur la philosophie que pratique Roland, que je rejoins, c'est-à-dire sur l'empirisme, simplement. Il y a une approche de la connaissance qui est fondée sur l'empirisme, c'est-à-dire sur l'observation et la vérification. Et ce qu'on ne peut pas observer, vérifier, on n'y accorde pas crédit. Et l'athéisme peut aussi reposer là-dessus sans pour autant reposer sur une révolte ou sur une foi refoulée.
Non, mais c'est marrant parce qu'en en fait, on se débarrasse d'un système de croyance pour rentrer dans d'autres systèmes de croyance qui est celui de la science, celui de l'observation. C'est un système de croyance, désolé, c'est un système de croyance que reconstitue le cerveau aussi, comme tu veux, mais c'est quand même un système de croyance. Roland est nerveux. Le contraire de ça, c'est de se débarrasser de tous les systèmes de croyances, y compris celui de l'observation, de la preuve par, parce que ça se passe 10 fois de la même façon, 100 fois de la même façon, 1000 fois. C'est un système de croyances que contredit d'ailleurs la physique quantique, parce que selon la physique quantique, il y a un principe d'incertitude qui fait que ça peut que tout ce qu'on croit établi d'une certaine façon dans la matière, ben, c'est pas tout à fait comme ça non plus. Donc, ce qui est plus intéressant, et c'est ce que disait Edouard, finalement, rejoint avoir une vie. Nous n'avons qu'une vision subjective de l'univers. L'objectivité n'existe pas. Et c'est cette relation-là à l'univers qui est importante de développer. Et donc, pour ça, d'essayer d'avoir l'expérience la plus directe possible de l'univers, donc se débarrasser de tout système qui fait qu'on va penser comme ça parce que c'est comme ça ou parce qu'on nous a dit que c'était comme ça. Non. On nous a dit que c'était comme ça, mais c'est peut-être pas comme ça. Il faut remettre en cause tout en permanence et perdre tout ce qu'on croit avoir acquis comme connaissance, qui en général nous emprisonne plutôt qu'elle nous libère.
On va céder la parole à Aldon Kahn, parce qu'on s'approche de la fin. Et...
Sorry, my headphones have been playing up. I don't know what to say. I would come back on the. I wanted to come back on the comment about atheism, and the, I think yeah, there is one type of atheism which is about the empiricist attitude, which can come from a not scientific but scientistic outlook, which is to take science as a new faith. But for me, I come to it as an atheist from a different viewpoint, which is not to do with that pragmatics, not to do with that, but from the idea that the concept of God, the notion of God that we deal with whenever we talk in religious terms, is incoherent. It's self-contradictory. It doesn't hold together. And for me, like atheism, is somewhere between the absolute nihilist viewpoint, the absolute materialist nihilism, and the Buddhist viewpoint. To me, those two are identical in saying that this notion, I can't subscribe to a notion of that spirituality is about this strange substance of the soul escaping from your body and ending up in a heaven run by a old bloke with a long white beard, which makes no sense whatsoever to me. It's just when we're talking about systems, systems of thought, and some of those are in words, some of those are in images, and these. That is a particular type of system that I think underlies much of what we talk about when we talk about religion. And for me, I think it's possible to have an atheism which is spiritual in the way that Buddhism is, while completely denying any concept of this spiritual substance.
Il est très tard. Édouard Brazé veut dire un petit mot tout court, mais c'est passionnant.
Rapide, très court. Ah ouais. Non, je voulais dire que moi, j'aime bien les. Contrairement à Pierre, j'aime bien les systèmes de pensée. Mais tous les systèmes de pensée, parce que ça permet la confrontation. Et par exemple, là, on avait des visions assez tranchées, assez différentes les unes des autres. Mais je dois vous dire que je suis aussi bien d'accord avec chacun des intervenants qu'avec moi-même, en réalité. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plus le débat d'idées que la conviction. Moi, je n'ai aucune conviction, en fait. Et en fait, pour terminer, j'aimerais citer une petite anecdote de Nasreddin Hoxha, dont on parlait avec Pierre tout à l'heure. À un moment donné, il avait été nommé juge de paix. Et en fait, il y avait deux personnes qui étaient venues le voir parce qu'ils avaient un procès en cours. Le premier expose son affaire. Nasreddin Hoxha lui dit « Tu as raison ». L'autre dit « Mais comment peux-tu juger qu'il a raison ? Tu ne m'as pas encore écouté. Moi, j'ai une vision complètement différente de l'histoire. » Et Nasreddin se tourne vers le deuxième en disant « Tu as raison ». Les deux se retournent vers Nasreddin et disent « Mais comment peut-on avoir raison l'un et l'autre ? Tu es incompétent, Nasreddin. » Il leur répond « Vous avez raison. »
C'est le mot de la fin. Non, Roland veut dire un petit mot et on s'arrête.
Tout à l'heure, quand tu parlais justement de connaissance de l'univers.
Petit mot.
Ouais, de connaissance de l'univers, c'est-à-dire se débarrasser des conditionnements pour arriver à une perception. Mais moi, je pense que ce n'est pas l'univers que tu perçois à ce moment. C'est uniquement ton esprit, ta conscience, ton cerveau, débarrassé d'un certain nombre de filtres.
Je pense pas que c'est exactement ça que j'appelle l'univers. Hein. Ce n'est pas l'univers physique des étoiles et tout ça. C'est soit par rapport à ce qu'il y a tout autour.
Bah, c'est bon alors.
Et c'est le mot de la fin.
C'est fini alors.
Bon, écoutez, je vous remercie. Alors, normalement, il est d'usage de laisser le public poser des questions. J'ai essayé tout à l'heure, on n'a pas pu les arrêter. C'est tout à fait passionnant. Donc, ce qui se passe maintenant, concrètement, je pense qu'une partie de ces messieurs, vous les retrouverez sur les zones de dédicace là-bas, du côté de la librairie, bientôt. Et maintenant, il y a James Gurney qui va venir nous remplacer ici. Donc, je vous recommande de rester. Donc, on peut les remercier et les applaudir bien fort parce qu'ils le méritent. Ainsi que le traducteur dans sa cabine qui fait de l'excellent travail.